Merci d'écouter RFI, Radio France Internationale. Il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et pour l'actualité africaine, Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous. À la une, la déception de nombreux Africains, étudiants ou travailleurs motivés par une expatriation au Canada, déçus depuis que les autorités ont mis fin à l'une de leurs politiques, celle qui permettait aux étrangers munis d'un visa de demander un permis de travail temporaire une fois sur le sol canadien. Dans ce journal également, les soupçons de corruption qui pèsent sur la ministre sud-africaine de la Justice. Elle est accusée d'avoir touché de l'argent issu d'une affaire frauduleuse impliquant une banque sud-africaine alors qu'elle était maire de la ville de Polokwane. C'était en 2016. Soir de fête ce dimanche pour les partisans d'Abdelmadjid Tebboune en Algérie. Le chef de l'État sortant a été largement réélu à la tête du pays avec près de 95% des suffrages exprimés. Des chiffres contestés dans la foule et par l'opposition. Et puis clap de fin à Paris sur les Jeux Paralympiques. La flamme s'est éteinte. L'heure est désormais au bilan pour les para-athlètes du continent et ils sont très nombreux à porter déjà leur regard sur Los Angeles 2028. Déception, je vous le disais donc, pour de nombreux Africains, travailleurs ou étudiants. On vous en parlait il y a une semaine sur RFI. Le 28 août dernier, le Canada décidait de la fin avec effet immédiat de sa politique permettant à des étrangers munis d'un visa visiteur de demander une fois sur le sol canadien un permis de travail temporaire. Une mesure prise en 2020 et qui devait aider les voyageurs bloqués à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. À l'instar de ceux dont le visa avait été expiré, mais qui ne pouvait donc pas quitter le pays. La fin de cette politique fait de nombreux déçus, d'autant que le Canada était devenu l'une des premières destinations visées par les Africains aux envies d'expatriation. Amélie Tulé.
Salim, un prénom d'emprunt, digère encore avec amertume ce changement de politique.
Mon plan, mon projet d'immigration pour le Canada s'est littéralement effondré comme un château de cartes.
Chauffeur à Douala au Cameroun, ce père de 4 enfants est arrivé en avril au Canada avec un visa visiteur, se fixant 6 mois pour trouver un travail.
Il dit, c'était la possibilité que j'avais de m'installer, de faire venir ma famille. Le visa qui prend moins de temps à l'obtenir, c'est un visa touristique. Tu travailles par la suite. Tu peux appliquer pour demander une résidence permanente.
Ce plan a volé en éclats. Salim va devoir rentrer au Cameroun. Désespoir déçu et des questions, Christian Yopa en reçoit beaucoup depuis une semaine. Le fondateur de Vision Canada Immigration reconnaît que le programme a permis à des hôpitaux canadiens de recruter ces dernières années une main-d'œuvre peu qualifiée, mais ce programme n'était pas destiné à durer.
Dans les faits, en réalité, j'aimerais rappeler à tout le monde que c'était l'exception en fait de pouvoir transformer un visa visiteur en visa de travail. Ce n'était pas la règle. Aucun autre pays au monde ne le fait. Il y avait déjà beaucoup de moyens de venir au Canada et ça existe toujours.
Des procédures plus longues et à l'issue incertaine. Mais pour Christian Yopa, le Canada faisant face à une pénurie de travailleurs dans des secteurs comme le bâtiment restera une terre d'immigration.
Amélie Tulé, volet justice dans ce journal et ce procès en appel intenté par des métis belgo-congolais contre l'État belge. Selon Bruxelles, il serait entre 14 000 et 20 000 métis nés d'un père colon venu de Belgique et d'une mère africaine. Une indigène, disait-on dans le vocabulaire colonial belge, des métis d'ailleurs dénommés à l'époque mulâtres. Et malgré leur nombre important, leur sort a été longtemps ignoré. Ils ont donc décidé d'attaquer l'État belge en justice. En première instance, les juges avaient rejeté la qualification de crime contre l'humanité portée au nom des métis par 5 femmes âgées aujourd'hui de plus de 70 ans et qui ont donc fait appel. Correspondance à Bruxelles, signée Pierre Benazé.
En première instance, le tribunal avait conclu que l'État belge ne pouvait être aujourd'hui puni pénalement du chef d'accusation de crime contre l'humanité pour des faits qui, à l'époque, n'étaient pas qualifiables d'un tel crime. La plainte portait sur la période 1948-1961. Elle concernait l'ensemble de la politique de placement d'enfants métis dans des institutions religieuses coloniales pour des motifs raciaux. À l'époque, le colonisateur avait affirmé qu'il s'agissait de leur donner une éducation européenne, mais en réalité, il y a eu une véritable politique concertée pour arracher ces enfants à leur mère, même si leur père ne les avait pas reconnus, et pour les rendre en quelque sorte invisibles, car leur existence même remettait en cause la suprématie raciale de l'ordre colonial. Les avocats des métis vont plaider en appel qu'en réalité, il s'agissait déjà à l'époque d'un crime contre l'humanité et qu'il faut appliquer à la politique coloniale d'après-guerre les mêmes principes que le tribunal de Nuremberg a utilisés pour le régime nazi au sujet des crimes contre l'humanité. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Bruxelles, où il est 7h35. La ministre sud-africaine de la justice au cœur d'accusations de corruption. En fin de semaine dernière, Thembi Simelane a dû s'expliquer devant le Parlement. Elle aurait touché en 2016, et alors qu'elle était maire de la ville de Polokwane, un prêt dans le but d'ouvrir un café, un prêt depuis remboursé. Sauf que cet argent provenait d'une affaire frauduleuse impliquant une banque sud-africaine. Une question se pose désormais dans le pays. La ministre devra-t-elle mettre son poste en jeu? Correspondance de Claire Bargelès à Johannesburg.
Cet argent, qui représente plus d'un demi-million de rand, soit environ 25 000 euros, a été prêté à l'actuel ministre par un homme qui est aujourd'hui poursuivi avec d'autres pour avoir pillé la VBS Mutual Bank. La faillite de cette banque mutualiste avait vu de nombreux épargnants, en majorité noirs et de classe modeste, perdre leurs économies dans ce scandale surnommé le grand casse bancaire. Or, c'est sous le mandat de Thembi Simelane, alors maire de Polokwane, que la municipalité avait investi des millions de rand dans cette même banque, ce qui laisse planer des soupçons autour de ce prêt qui pourrait être considéré comme une faveur en retour. Selon des révélations de la presse locale, la police a effectué une perquisition la semaine dernière dans les bureaux de son ancien assistant et désormais se pose la question du maintien de la ministre à son poste. Lors de son audience au Parlement, plusieurs députés de partis autres que l'ANC se sont inquiétés d'un possible conflit d'intérêts et de la capacité de Thembi Simelane de traiter des questions judiciaires au sein du gouvernement. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
RFI 6h36 à Alger. Victoire écrasante pour Abdelmadjid Tebboune lors de la présidentielle anticipée en Algérie. Les résultats officiels, même s'ils sont encore provisoires, donnent près de 95% des suffrages exprimés pour le chef de l'État sortant. S'agissant de la participation, Mohamed Charfi, président de l'autorité électorale, assure que 5 630 000 personnes se sont rendues aux urnes, soit environ 23% des électeurs inscrits sur les listes. Et hier soir au QG d'Abdelmadjid Tebboune, l'ambiance était à la fête pour célébrer un deuxième mandat consécutif à la tête du pays. À Alger, Faisal Metaoui.
Dans le QG de campagne du candidat Abdelmadjid Tebboune sur les hauteurs d'Alger, l'ambiance est à la fête. Beaucoup de jeunes sont rassemblés autour de portraits géants du candidat vainqueur. Najwa, étudiante en pharmacie, ne cache pas sa joie.
Félicitations à toute l'Algérie. Ces résultats sont l'aboutissement de beaucoup d'efforts. Le président a travaillé durant les 5 dernières années pour arriver à cette victoire. L'Algérie restera toujours victorieuse.
Farid, aide-comptable, a été volontaire durant la campagne de Tebboune.
Ce résultat est le fruit de plusieurs jours de fatigue et d'efforts. Merci à tous ceux qui ont soutenu notre candidat, Abdelmadjid Tebboune. Nous n'avons pas dormi depuis hier, suivi les rapports de nos délégués régionaux qui nous annonçaient déjà la victoire.
Mourad, gérant du start-up, estime que les jeunes ont soutenu le candidat Tebboune.
La campagne électorale a été bien organisée depuis le début. Toutes les règles et les lois ont été respectées par tous durant cette campagne. Les résultats sont excellents. C'est grâce à l'effort des jeunes Algériens aussi. C'est une victoire écrasante de notre candidat Abdelmadjid Tebboune pour un nouveau mandat.
Abdelmadjid Tebboune a promis durant sa campagne de créer des milliers de postes d'emploi pour les jeunes et d'augmenter l'allocation chômage et la bourse des étudiants. Faisal Metaoui, Alger, RFI.
J'ajoute que les deux adversaires du président réélu n'ont obtenu qu'un peu plus de 2 et 3% des votes. Le MSP, Mouvement de la Société pour la Paix d'Abdelali Hassani, dénonce notamment une mascarade. À l'international, le président français Emmanuel Macron a adressé hier soir ses plus vives félicitations à Abdelmadjid Tebboune. Paris, où il est 7h39.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Que tes larmes pourront rien changer.
Je suis venu te dire que je m'en vais, le mythique titre de Serge Gainsbourg repris par Amadou et Mariam. Une façon pour Paris de dire au revoir à ces Jeux, à un été olympique, puis paralympique. Le duo malien n'était pas au Stade de France pour la cérémonie de clôture, mais devant la vasque olympique, la flamme s'est définitivement éteinte dans la capitale française. L'heure du bilan pour les organisateurs, les encadrants du mouvement paralympique, mais également pour les para-athlètes. Un bilan jugé largement positif, en tout cas pour le sauteur togolais Séverin Djokansa, satisfait de l'événement mais aussi de sa performance, 10e de sa finale et un nouveau record personnel à la clé. Lui qui espère que cette 17e édition servira de tremplin pour de nombreux athlètes.
D'abord pour ces JO, je retiens que tout est possible. possible à l'humain. On peut tout accomplir si on a la volonté et on se donne les moyens. Les moments forts, c'était d'abord la cérémonie d'ouverture. On devait représenter le pays et porter haut le drapeau. C'était le premier moment fort. Et le second moment fort, c'est après mon échec à 1m92 et que j'étais retourné dire merci au coach. Ça m'a donné des larmes aux yeux. Ça m'a fait un peu pleurer, donc c'était les deux moments forts. Ces JO, c'est un moyen de faire parler du parasport dans mon pays. Déjà que les médias togolais en ont parlé, c'est déjà un bon point pour moi et pour le mouvement paralympique togolais. Alors du coup, ce que je peux dire, c'est que dans les années à venir, nous ferons ce qu'il faut pour qu'il y ait plus de représentants togolais aux Jeux de Los Angeles 2028.
C'est vrai, Adjo Kansa au micro de François Mazet. Comme il y a 3 ans à Tokyo, c'est le trio Algérie, Tunisie, Maroc qui domine largement le tableau des nations africaines grâce à ses 6 titres. L'Algérie est en tête juste devant la Tunisie et ses 5 médailles d'or. Le Maroc, nation la plus médaillée du continent avec 15 médailles, mais 3e avec 3 titres. Viennent ensuite le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Kenya et donc Maurice pour la première médaille paralympique de son histoire. La fin de cette édition en Afrique du Sud où une centaine d'artistes venus de 14 pays exposés à la FNB Art Joburg. On y trouve des toiles, des sculptures et toutes sortes d'œuvres d'art. L'année dernière, déjà, la plupart d'entre elles avaient trouvé acheteur pour 1 million d'euros parfois. Et cette année encore, le rendez-vous vient confirmer l'intérêt croissant des collectionneurs africains. Charlotte Cossé.
Le FNB Art Joburg joue un rôle essentiel dans le développement et le maintien d'un écosystème culturel commercial qui regroupe des artistes basés sur le continent et dans la diaspora, s'enorgueillissent les organisateurs de la foire. De l'Afrique du Sud au Zimbabwe, en passant par le Sénégal, le constat est le même. Les collectionneurs africains se font de plus en plus nombreux, abondent les galeristes. Ainsi, certains artistes africains sont recherchés et bien cotés sur les marchés. La galeriste dakaroise Cécile Fakouri, répondant à nos confrères des Échos, souligne par ailleurs l'émergence de collectionneurs régionaux. Certains structurent même leurs collections pour les présenter au public. De grands musées voient le jour, comme au Cap ou à Marrakech. Dans certains pays, une impulsion politique dans le sillage de la restitution des œuvres d'art encourage également la production contemporaine, comme au Bénin, avec la création d'un district des galeries d'art. L'année passée, le marché de l'art dans son ensemble a chuté de 18% selon un cabinet d'analyse londonien. Le marché africain a lui mieux résisté, affichant une baisse de seulement 8%.
Charlotte Cossé du service économie de Radio France Internationale. Tout de suite, vous retrouvez Arnaud Pontus pour la suite des RFI Matin.